France Inter, le 18-20.
Et c'est le téléphone sonne. Pouvons-nous tolérer une société, là, chez nous, qui nourrit à peine ceux qui travaillent sans arrêt pour la nourrir, cette société? C'est notre thème ce soir. Comment garder une production de qualité en France qui entretient les territoires, fait de la bonne alimentation à la française et rémunère correctement les producteurs? 40% d'entre eux gagnent 350 euros pour vivre chaque mois. Le projet de loi alimentation, bientôt discuté au Parlement, peut-il garantir des revenus décents aux agriculteurs? Appelez-nous, interrogez nos invités qui sont ici en direct au Salon de l'agriculture, témoignez. Le téléphone sonne, c'est votre émission, je vous rappelle le standard. 01 45 24 7000.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Tout de suite au standard, on retrouve Daniel qui est dans l'Isère. Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Bonsoir. On vous écoute Daniel.
Et donc, moi, la question que j'allais poser, le témoignage que je voulais apporter, c'est que je suis allé cet après-midi, vu que mon producteur de maraîcher en culture raisonnée de choux n'était pas là, était parti en vacances, j'ai voulu en prendre dans une grande surface. Et donc, la deux petites moitiés de choux, j'en ai eu pour 6,50 euros, alors que quand je le prends chez cet agriculteur, j'en ai pour 2,50 euros, et j'ai un gros chou qui fait près de 3 kilos. Alors que là, j'avais un petit kilo 500 maximum. Alors je me dis, mais derrière, qu'est-ce qui revient sur ces 6,50 euros au producteur, à l'agriculteur? C'est la question.
Daniel, restez en ligne avec nous. Nos invités vont vous répondre. Je vous les présente. Pascal Vinet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général de Coop de France, les coopératives françaises. C'est un réseau de 2500 entreprises, 86 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 165 000 salariés. Régis Mingui, bonsoir Régis Mingui.
Bonsoir.
Producteur de lait dans le Maine-et-Loire, évincé par Lactalis pour avoir osé critiquer ce géant du lait, et vous travaillez désormais pour le réseau C'est qui le patron?
Tout à fait.
La marque de lait, le label C'est qui le patron, je vous rappelle, c'est une nouvelle façon de vendre du lait en toute transparence et de rémunérer le producteur au juste prix. 40 millions de briques de lait écoulées dans 12 000 points de vente en France. C'est le bilan de cette première opération de C'est qui le patron? On aura l'occasion d'y revenir. Et puis notre troisième invité, Arnaud Daguin. Bonsoir Arnaud Daguin.
Bonsoir Pierre.
Chef cuisinier, conseil en stratégie alimentaire. Et on le retrouve dans l'émission de François-Régis Gaudry sur France Inter le dimanche de 11h à midi. On va déguster. Enfin, notre quatrième invité, c'est Manuel Ruffez. Bonsoir Manuel.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Spécialiste des dossiers agricoles à la rédaction de France Inter. Alors ce premier témoignage de Daniel dans l'Isère, il a acheté un chou dans une grande surface, 6,50 euros. Il voudrait savoir comment se...
Tant pis pour lui.
Voilà. Comment se décompose ce prix? Arnaud Daguin.
Moi, je vais pas vous faire la décomposition du prix du chou. Ça serait quand même osé de ma part. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a tout un éventail de solutions pour s'approvisionner. Le seul truc qu'on n'a pas, c'est l'indication de la valeur de ce qu'on achète. Donc, comme le disait ce gauchiste très connu, Warren Buffett, que vous connaissez bien, il dit « Price is what you pay and value is what you get ». Ouais. Voilà. C'est deux choses différentes. Donc, tant qu'on ne sait pas la valeur des choses, qu'est-ce que vous voulez qu'on y colle un prix dessus? L'idée, c'est quand même, au départ, de comprendre qu'on est dans un système alimentaire qui doit produire de la valeur. Ouais. Et pas seulement du prix, à terme. Voilà, il faut que tout le monde s'y colle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le moyen d'attendre, quoi. Il faut vraiment que tout le monde se colle à ce problème-là. Ce que nous dit cet auditeur, c'est tous les jours, tout le temps, ces espèces de grands écarts imbéciles dont on ne sait même pas d'où ils sortent, quoi. Eh bien, c'est le fruit d'un système qui est, pour moi, obsolète. C'est terminé, il ne faut plus penser comme ça. Voilà.
Si je comprends bien ce que nous a dit Daniel, il a acheté donc ce chou 6,50 euros dans une grande surface, grande distribution, et dans un circuit court, il aurait payé 2,50 euros.
Ben oui.
Donc,
oui, il n'aurait pas payé de camion, il n'aurait pas payé de frigo, il n'aurait pas payé le magasin et les personnes qui bossent dedans, il n'aurait pas payé la chaîne longue. Ceci dit, il ne faut pas cracher non plus sur les chaînes longues, parce qu'on ne pourra pas nourrir les gens qui habitent à 80% dans les villes aujourd'hui en se passant de chaînes longues. Donc il ne faut pas se tromper de problèmes.
Pascal Vinet.
Oui, je pense qu'il faut regarder ça avec beaucoup de réalisme. On est dans une situation où les prix des produits aujourd'hui fluctue, et d'ailleurs pour un même produit fluctue très fortement et fluctue suivant les réseaux de distribution. Je pense que le consommateur doit être très attentif aux produits qu'il achète, au prix. Il ne peut pas faire une confiance absolue et aveugle, notamment à la grande distribution. Pour autant, celle-ci écoule une grande partie de nos produits. Donc oui, il faut que le consommateur soit attentif. On a beaucoup de circuits de distribution qui existent aujourd'hui. Valorisons-les et faisons jouer la concurrence.
Des courriels, et je vous lis celui-ci, c'est Michel qui nous dit « Pourquoi ne pas imposer aux distributeurs l'affichage de toutes les étapes du prix, depuis le prix d'achat au producteur, le prix des intermédiaires jusqu'au prix final du distributeur ?» Et là, le consommateur serait bien informé et saurait clairement si le producteur est payé correctement pour vivre de son travail. Sur ce point, Régis Mingui.
C'est ce qu'on souhaite tous. Je pense que n'importe quel consommateur en aurait la plus grande envie. Hein. Aujourd'hui, on en revient toujours au même problème et au même dilemme. Moi, je me suis battu pour ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve inadmissible je l'ai déjà dit et je vais me répéter, mais je trouve inadmissible que la variable d'ajustement soit toujours la même chose. C'est toujours le producteur qui sert de variable. Et en fait, on a absence absolue des marges qui sont faites par les transformateurs et par les distributeurs. Et il est clair qu'il a totalement raison et qu'il faut absolument, à un moment donné, mettre les choses au clair et que les choses soient équitables. Quoi.
Manuel Ruffez.
C'est exactement ça. Plus on rajoute d'intermédiaires, plus le prix va augmenter, puisque chacun va prendre sa marge. Donc le but, c'est bien ça, c'est de partir du coût de production qui soit connu du producteur tout au début de la chaîne, pour qu'ensuite tout ça soit décliné et que le producteur puisse vivre de sa production, de la vente de son chou qui finit en rayon à 6,50 €.
Pascal Vinet.
Oui, tout ça est un peu théorique tout de même, parce que, un, on ne peut pas réduire le coût d'un produit à la seule production agricole et à la seule transformation. Nous, nous sommes des coopératives agricoles où des agriculteurs se sont organisés pour commercialiser leurs produits. Elles n'ont pas spécialement envie de mettre sur la table la manière dont elles construisent le prix vis-à-vis de la grande distribution qui va écraser les prix. Allez expliquer à la grande distribution ce que vous faites en matière de coûts de production ou de coûts de transformation, et il va vous expliquer que c'est beaucoup trop et qu'il faut les baisser. Donc la transparence a des limites. Elle risque d'inféoder notamment l'agriculteur et ses outils de transformation qu'il a lui-même construits au simple coût de production. Je pense que les agriculteurs n'ont pas vocation à simplement couvrir leur coût de production. Ils ont vocation à gagner leur vie.
Je rappelle, c'est Pascal Vinet, délégué général de Coop de France. Arnaud Daguin.
Alors, la transparence a ses limites ou pas? En fait, il ne faudrait pas s'arrêter à seulement décortiquer le prix de façon transparente. Il faut, à mon avis, aussi mettre à côté la valeur de façon transparente, de façon à ce que tout le monde sache ce qu'il est en train d'acheter et quel prix il l'achète. Aujourd'hui, les produits pas chers sont hors de prix globalement. On l'a déjà dit 1000 fois. Quand on achète pas cher, on sait que de toute façon, on va payer ailleurs et on va payer très cher ailleurs. Donc l'idée, c'est quand même, pourquoi s'arrêter en si bon chemin sur la transparence des prix? Il faut aussi obtenir la transparence des valeurs qui sont dedans. Quand une carotte stocke du carbone, quand elle favorise la biodiversité, quand elle filtre et infiltre de l'eau, elle a une autre valeur qu'une carotte qui fait pas tout ça. Quand elle contient exactement ce dont on a besoin pour se constituer, eh bien, elle a une valeur qu'une carotte qui en a moins à l'intérieur ou qui même présente des traces de phyto. Vous comprenez? Et quand elle paye bien son producteur au prix au bout du champ, elle a une autre valeur qu'une carotte de dumping. C'est ça qu'il faut savoir. C'est à partir de là qu'on va arriver à retourner le système alimentaire. Et c'est même pas le retourner, on va le construire, mais on va le construire sur des valeurs, en partant de sols vivants, avec des produits vivants pour des humains vivants. Voilà.
Arnaud Daguin, chef cuisinier, conseiller en stratégie alimentaire, et Bernard Reto, standard. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir et bonsoir à tous vos invités. Alors je voulais aborder le problème du lait parce que j'entendais tout à l'heure que les producteurs vendaient leur litre de lait à 32 centimes. Moi quand je l'achète personnellement, je le paye plus d'un euro. Donc on nous dit que le consommateur est prêt à faire un effort pour une juste rémunération du producteur. Je pense qu'on fait déjà l'effort. Et ce que je trouve déplorable aussi, c'est le manque d'informations, parce que rien ne ressemble plus à une brique de lait qu'à une autre brique de lait. La seule information qu'on puisse avoir, c'est qu'il s'agit ou non de lait français. Et notamment aussi sur les produits laitiers style yaourt, quand vous achetez des yaourts aux fruits, vous n'êtes jamais fichu de savoir d'où viennent les fruits qu'on nous met à l'intérieur de ces yaourts. Voilà.
Alors, Régis Mingui, je rappelle, un producteur de lait dans le Maine-et-Loire. Que pensez-vous de ce constat que vient de faire Bernard ? D'abord sur les prix.
Sur les prix, voilà. Alors, je pense que je suis à la fois d'accord avec lui et à la fois pas forcément. Oui, il paye certainement son lait plus d'un euro. Maintenant, il y a lait et lait. Aujourd'hui, il y a le lait bas de gamme, certes, qui est autour de 67-68 centimes la brique. Et puis, il y a le lait à 1 euro et des brouettes parce que ce lait est issu d'une agriculture avec des animaux nourris sans OGM, avec des animaux qui vont au pâturage, avec peut-être une filière biologique. Le problème, c'est que pour moi, 1 euro ça, ou 1 euro et quelques, ça ne veut rien dire parce que aujourd'hui, il y a tellement. Alors, c'est là où je rejoins ce monsieur, c'est qu'il y a une telle gamme de lait, mais en principe, quand même, sur les briques, c'est indiqué si. Le mode de production de ce lait, si ces animaux-là sont des animaux qui vont au pâturage, si ces animaux-là sont en agriculture biologique.
Pascal Vinet ?
Oui, la complexité du système, c'est que le lait est un produit qui se transforme de manière différente. Il peut aller en fromage, il peut aller en lait de consommation, il peut avoir des prix différents. Et vous avez des producteurs qui peuvent être payés 540 euros les 1000 litres jusqu'à 320 en fonction du produit qu'ils vont évidemment mettre sur le marché. Pour ce qui concerne le lait de consommation, oui, on en peut avoir des. Chez mon Carrefour à Évreux, j'ai acheté du lait à 3,58 euros les 6 litres dernièrement. Donc effectivement, ça fait des prix très bas. Et par contre, on peut en acheter du plus cher. Et toute la difficulté pour le consommateur, et là je rejoins Arnaud Daguin, c'est la question de la valeur. Au fond, qu'est-ce qu'on achète quand on achète un produit ? Et quelle est sa valeur ? Et ça, c'est vraiment très important parce que lorsqu'on achète un iPhone ou un Samsung, personne ne se pose la question de quel est le prix de la matière première qui l'a permis de le fabriquer. Et je pense qu'il y a des culbutes extrêmement importantes. Sur les produits alimentaires, il y a des produits de valeur qui ont nécessité de l'innovation, qui méritent leur prix. La seule chose, c'est qu'il faut que le consommateur comprenne aussi que les produits aujourd'hui français sont des produits de qualité, de plus en plus de qualité, et qu'ils ont un prix. Et sans doute qu'il faut mieux expliquer ce qu'est ce prix, cette valeur apportée par nos produits aujourd'hui.
Et commentaire d'un auditeur sur le site de l'émission. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le savoir-faire, la qualité, la proximité. Et tout ça, ça a un prix. Il faut accepter de le payer. Arnaud Daguin.
Et tout ça, ça se mesure. Parce que tant qu'on n'a pas les outils pour mesurer ça, c'est comme si on pissait dans un violon. On peut raconter tout ce qu'on veut à qui on veut. Le lait dont on parle, là, c'est quand même un produit formidable, à un moment donné, quand il sort de la vache, qu'il a ses lactoferments, qu'il est vraiment vivant. Et puis, ça peut être aussi, comme le pétrole, un produit oui. issu d'un cracking industriel, où on a séparé tous ces fragments et ces composés, où on a recomposé un machin vaguement blanchâtre. Ça ne peut pas porter le même nom. Vous comprenez ? C'est ça le problème. C'est que si vous confondez le lait qui sort de la vache avec le truc qui sort de l'usine, machin, eh ben, vous avez perdu dès le départ.
Manuel Ruffez.
C'est exactement l'exemple du lait Sequil Patron. Le lait Sequil Patron, on le trouve en général en rayon à 99 centimes, donc on n'est pas loin de l'euro. Sauf qu'on sait, quand on achète le lait Sequil Patron, mais il y en a d'autres qui vont suivre cet exemple, j'imagine, mais que le producteur va être payé 39 centimes le litre, 390 euros les 1000 litres, que les vaches sont nourries sans OGM, que les vaches sont dans les champs. Donc on paye un cahier des charges quand on paye 99 centimes ce lait-là.
Régis Mingui, qui travaille désormais pour Sequil Patron, après avoir été évincé par Lactalis, le géant.
Tout à fait. Donc moi, je vais revenir sur ce 1 euro et quelques de ce monsieur, parce que voilà, nous, notre lait est valorisé aujourd'hui à 39 centimes. Maintenant, il est vrai que par rapport au cahier des charges que l'on a, les consommateurs français ont voté pour que ce lait soit en vente à 99 centimes globalement partout en France. Et inévitablement, moi, l'élevage ou mon pâturage, quasiment 7 mois à 8 mois de l'année, certes, je ne vais pas vous cacher que quand elles sont au pâturage à une certaine période, elles font moins de lait que si elles étaient concentrées dans le bâtiment. Maintenant, ça a un prix, quoi.
Au standard, Jacques est avec nous. Bonsoir, Jacques.
Oui, bonsoir.
Jacques, vous êtes sur l'antenne, en direct, dans notre studio au Salon de l'Agriculture.
Merci d'avoir pris ma question.
Vous êtes en Charente.
Oui, en Charente-Maritime.
Je vous écoute.
Je vous appelais parce que en début de d'émission, enfin en fait c'était à 18h, on a entendu la personne qui présentait, enfin qui parlait de l'émission à venir, qui disait que les agriculteurs, alors en disant les agriculteurs de façon très globale, mais vous avez ajouté tout à l'heure 40% des agriculteurs gagnent 350 euros par mois.
Oui.
Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ces 350 euros ? Est-ce que c'est quand tout a été déduit ou est-ce que c'est ce qui reste, je ne sais pas, pour manger, pour...
Arnaud Daguin, sur ce point, je sais que vous estimez que, ce chiffre, c'est absolument un scandale.
Oui, bien sûr, surtout quand on le pose comme ça. Après, de fait, il faudrait pondérer ça avec plein d'autres indicateurs. Là aussi, c'est quoi la vie de ces gens qui gagnent si peu ? Est-ce que quand même, ils peuvent vivre un peu bien comme ça ? Mais en fait, c'est même pas le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tout un tas de gens qui bossent très très dur, comme on leur a dit de bosser pour la plupart, hein, parce qu'ils n'ont pas choisi forcément leurs itinéraires techniques ni rien, et que pour le nombre d'heures de travail qu'ils fournissent et la dureté du boulot que c'est, eh ben ils sont pas payés, et puis c'est tout. Quoi. Alors, voilà, stop,
très faut simplement, arrêter,
c'est alors, pas 300 ou 400 ou 500, ils sont juste alors, pas rémunérés. C'est
on tout. En a parlé avec le ministre Stéphane Travers. Ce projet de loi censé garantir une meilleure rémunération des agriculteurs qui va être discuté au Parlement dans quelques semaines. Je rappelle, il doit permettre aux agriculteurs d'être rémunérés sur la base de leurs coûts de production et impose à la grande distribution un encadrement des promotions et des ventes à perte. Vous y croyez, ce texte peut régler, supprimer ce scandale, Arnaud Daguin?
Non,
pas trop long.
Pas une seconde.
Mais il faut expliquer pourquoi.
En fait, j'ai bien peur que ça soit un emplâtre sur une jambe de bois, quoi. Il faut reprendre les choses vraiment du départ, je pense, hein, là, sur ce sujet-là. C'est... Les itinéraires techniques agriculturaux aujourd'hui, il y en a qui nous rendent des services écosystémiques incroyables. Il y a 15 000 agriculteurs en France, au moins, bio ou pas bio, c'est pas le problème. Il y en a au moins 15 000 qui travaillent sur ce qu'on appelle la conservation des sols, qui recapitalisent sur des sols vivants. Et c'est ça qu'il faut rémunérer aujourd'hui. Si notre gouvernement, ou même si sur la planète, on était capable de mettre en place un espèce de système collaboratif pour évaluer ça et savoir comment on peut rémunérer ces services-là qui sont inestimables. Mais le problème du prix du produit se poserait même plus.
Régis Mingy, ce projet de loi, vous y croyez ? Ça peut améliorer la situation ?
On va être long, mais pour moi, j'y crois pas. Et puis je pense que c'est... Voilà, on n'est pas franchement... En direct avec le centre du problème, quoi. Moi, je suis assez d'accord. Il faut reprendre les choses à la base.
Le problème, ce sont les coûts de production. Si la négociation démarre, point de départ pour le prix, mes coûts de production pour que je m'en sorte. C'est pas une bonne base.
Mais les coûts de production n'ont jamais cessé de monter depuis des décennies, et les rendements plafonnent, voire baissent maintenant. Où on va avec ça ?
Pascal Vinet.
Le projet de loi est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Parce qu'on a besoin de rééquilibrer les relations commerciales entre l'aval et l'amont. Il faut quand même voir que les agriculteurs sont atomisés face à une grande distribution extrêmement concentrée. Nous, coopératives agricoles, on regroupe les agriculteurs pour leur redonner du poids économique. Parce qu'au fond, tout ça, c'est quand même une histoire d'économie. C'est une histoire de marché. C'est une histoire de rapport de force. Donc il faut bien, quelque part, que les agriculteurs, dans la manière dont ils commercialisent leurs produits, puissent peser sur les marchés. Donc il faut que la loi, parce qu'ils sont plus faibles que la grande distribution, puisse leur donner du poids, d'où l'idée de l'augmentation du seuil de revente à perte, d'améliorer la clause de renégociation, de leur redonner la possibilité de mettre en avant leurs coûts de production, même si on sait que ça va être un exercice difficile parce qu'il y a un risque de se faire éjecter du marché si nos coûts de production sont trop élevés par rapport aux produits européens. Mais pour autant, c'est absolument nécessaire de bouger la loi. Mais en contrepartie, il va falloir faire aussi modifier les comportements d'achat dans la grande distribution. Il est anormal que dans la grande distribution, on ne discute que des prix dans les box de négociation. Où est la valeur ? Où sont les efforts faits par les agriculteurs depuis des années ? Tout ça doit changer et la grande distribution doit prendre en compte la valeur des produits au-delà de leur prix. Les agriculteurs, on ne peut pas en permanence opposer le pouvoir d'achat des Français et le revenu des agriculteurs. Parce que c'est ça le problème. Le problème, on nous dit, mais il ne faut pas augmenter l'alimentation parce que le pouvoir d'achat des Français va être amputé. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, depuis 2008, on privilégie le pouvoir d'achat des Français au détriment du revenu des agriculteurs.
Mais vous avez vu que la grande distribution, maintenant, se lance dans le bio.
J'espère pour les producteurs bio que les prix seront maintenus, parce que la tendance va être à faire baisser les prix. Toujours plus de bio pas cher, c'est toujours plus de bio vendu. Ça, c'est la publicité de M. Leclerc. Oui. J'espère que les agriculteurs français qui font du bio aujourd'hui seront vraiment rémunérés.
Manuel Ruffez.
Moi, j'ai l'impression, de ce que j'en comprends, c'est que de toute façon, ce que veut faire le gouvernement, c'est un plan en deux temps. Il y a d'abord cette loi qui devrait tenter d'encadrer un peu les prix, de redonner un peu de prix aux producteurs, à la base. Et puis surtout, ce que dit le gouvernement aujourd'hui, c'est que maintenant, il va falloir gagner en qualité et monter en gamme. Parce que si on reste sur des produits standards, si on fait du lait standard, on est sur des marchés qui sont complètement ouverts. Les standards, les quotas laitiers ont disparu. On est sur des marchés mondialisés. Donc, de toute façon, les cours du lait, on ne va pas pouvoir les faire grimper comme ça, de manière artificielle, en France. On ne va pas acheter plus cher le lait en France, alors qu'on va le trouver moins cher en Irlande, on va le trouver moins cher en Hollande. En revanche, ce que dit le gouvernement aujourd'hui, c'est la deuxième partie de son discours, c'est qu'il va falloir monter en gamme, monter en qualité. Et dans ce cas-là, on apporte une valeur ajoutée au produit. Et dans ce cas-là, on peut le vendre plus cher et peut-être que le consommateur l'achètera aussi plus cher.
Ouais, Arnaud Daguin, vous y croyez ?
Bien sûr, c'est cette sortie de la spirale déflationniste permanente du moins-disant qu'il faut organiser, et elle ne peut s'organiser que sur la reconnaissance et l'identification de valeurs dans les produits. Mettons-nous d'accord sur les objectifs que nous avons tous sur notre alimentaire, et une fois que ces objectifs sont clairs, fabriquons les outils pour mesurer si on y va ou si on n'y va pas. À partir de là, vous allez voir, ça va aller très vite. Donc, tout le monde est d'accord pour acheter une carotte qui fait du bien à la santé, qui fait du bien à la planète et qui paye le mec qui la produit. Il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de le savoir. Donc, allons-y. On a besoin d'une espèce de système collaboratif massif sur la planète. Vraiment, vous savez, vous connaissez Linux. Quand vous passez un email, 97% de chance pour que cet email passe par Linux. Pourquoi ? C'est quoi cette hégémonie d'un système ? Eh bien, c'est parce que Linux, ça appartient à personne et que ça appartient à tout le monde. Et que c'est le fruit d'un travail massivement collaboratif. Mais notre agriculture mondiale, ça doit être ça. Et à partir de là, chacun fera sa richesse comme il a envie.
Pascal Vinet, Coop de France.
Oui, la montée en gamme est une des pistes, et la piste la plus importante. Mais attention, là aussi, à ne pas faire dans l'angélisme. Nos compétiteurs européens et internationaux font aussi de la qualité. Et d'ailleurs, si au Salon de l'agriculture, aujourd'hui, les agriculteurs sont préoccupés par le Mercosur, c'est que ce n'est pas uniquement un problème sanitaire, c'est aussi qu'on va importer à bas prix des morceaux de viande de haute qualité, parce qu'ils sont meilleurs, ils sont pas mauvais, leurs produits, et ils sont fabriqués à des coûts beaucoup moindres que nous. Donc on a un enjeu, là aussi, de compétitivité, qu'il va falloir regarder de près. Je le rappelle, l'agriculture est sur un marché ouvert.
En Loire-Atlantique, Claude nous écoute et souhaite intervenir. Bonsoir Claude.
Oui, bonsoir.
Claude, allez-y, on vous écoute.
Oui, je me posais une question, vos intervenants vont pouvoir sûrement me répondre. J'entends de tous les jours que les agriculteurs gagnent 350 euros par mois. Et je sais trop bien qu'on ne peut pas vivre avec cette somme pour se loger, se nourrir, se payer, se renvoyer l'électricité. Je voudrais savoir...
Juste un point, Claude, bien clair, hein, les chiffres, je les ai donnés, on dit qu'à peu près 40% des producteurs vivent très difficilement et donc avec 350 euros par mois. Il ne s'agit pas de tous les agriculteurs.
Hein, non, bien sûr, mais comment font ces 40% justement ? Quelle aide ont les agriculteurs pour compléter ce revenu qui est trop bas pour vivre ? Alors, est-ce que ces gens ont une aide ? Est-ce qu'ils ont droit, par exemple, au RSA ? Est-ce qu'ils ont droit à d'autres aides de l'État, du département, de la commune ? Voilà ce que j'aimerais savoir, comment on peut vivre avec 350 euros par mois ? On ne peut pas.
Alors, Pascal Vinet va vous répondre. Pascal Vinet, délégué général de Coop de France, vous répond.
350 euros sont les chiffres de la mutualité sociale agricole et ce sont les résultats de l'entreprise, hein, donc qui globalise l'ensemble de l'entreprise agricole. Donc sont inclus effectivement tous les dispositifs à l'intérieur, notamment les aides de la politique agricole commune, puisque ce sont presque 10 milliards d'euros qui sont aujourd'hui consacrés à l'agriculture française par le budget européen. Donc il faut regarder effectivement dans le détail comment on se construit ces 350 euros. Et là, je crois que le mieux, c'est d'interroger la mutualité sociale agricole.
Des remarques d'auditeurs à propos du bio, 6,5% des surfaces agricoles sont dédiées à cette agriculture en France. Des auditeurs estiment que c'est insuffisant, qu'il faut aider ce secteur. Sur ce point, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, finalement, il y a une grande évolution chez les Français ? On veut des circuits courts, on veut de la vente directe, on veut être informé, on veut du bio et on est même prêt, s'il le faut, à payer un peu plus. Est-ce que je me trompe?
On veut de la valeur. Donc, est-ce que le bio, c'est toute la valeur possible à avoir? Moi, je pense que bio ou pas bio, c'est pas vraiment le problème. Hein. Chacun prend le chemin qu'il veut pour aller vers cette espèce de Graal qui serait une bio-agroécologie, on va dire. Tout le monde veut progresser, mais c'est pas parce que c'est bio que c'est forcément sur un sol vivant, encore une fois. C'est pas parce que c'est bio que... Vous savez que chaque fois que la consommation de bio en France augmente de 1%, on perd 1 milliard d'euros en balance extérieure. Donc, si demain on fait passer la loi pour 50% de bio dans les cantines, imaginez la tronche de Bercy. Imaginez.
Pascal Vinet.
Moi, je crois que les Français, les consommateurs, ils veulent le contact avec les agriculteurs. Ils veulent retrouver le contact avec leurs agriculteurs. Pourquoi les circuits directs, pourquoi les circuits courts ont autant de succès? C'est parce qu'ils ont le contact, ils sont rassurés par les agriculteurs. Nous, en coopérative, ce sont des agriculteurs qui sont pilotes de nos entreprises. Et ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est que plus on a un contact des agriculteurs, plus la chaîne est maîtrisée par les agriculteurs, plus la sécurité pour les Français est forte. Et sur la question du bio, l'ambition du gouvernement est de 15% en 2022. Nous, on pense que c'est faisable. Et en tout cas, chez nous, on a plus de 550 coopératives qui se sont mis au bio et qui s'impliquent tous les jours dans cette démarche. Et on a tout intérêt à la faire. Il faut que les Français payent ce produit. Mais pour que les agriculteurs soient rémunérés, attention là aussi à l'évolution des prix sur le bio. On risque de tuer la poule aux œufs d'or très rapidement.
Manuel Ruffès, de la rédaction de France Inter.
Oui, non, je voulais préciser effectivement, le ministre vient de nous l'annoncer d'ailleurs sur l'antenne, que le plan bio pour l'avenir, c'est de doubler les surfaces, de passer de 6,5% à 15%. Dans ce cas-là, la difficulté qui va se poser d'un point de vue strictement économique, c'est que les produits bio sont plus chers. Alors, est-ce que ça reste accessible? Est-ce que ça reste abordable pour tout le monde? Est-ce que dans ces cas-là, il ne faut pas réorienter les aides, effectivement, pour aller aider ces producteurs qui font un geste pour l'environnement? Tout ça, ce sont des questions qu'il va falloir se poser.
Arnaud Daguin?
Oui, je pense qu'il faut, encore une fois, identifier les valeurs qui sont dans les produits, et y compris, évidemment, dans les produits bio, pour pouvoir les rémunérer à leur juste hauteur. C'est pas compliqué à comprendre, quand même. C'est vraiment le truc dont on a besoin.
Comment ? Pour que tout le monde puisse se les offrir.
Mais le problème de la bio aujourd'hui, c'est un problème de rendement. Vous le savez. Voilà, ça se résume à ça. C'est idiot, mais bon, ben, c'est comme ça. Aujourd'hui, quand on est en bio, on a 30% de moins de rendement en moyenne que le reste. Et du coup, ben, on est d'autant plus cher en bout de champ. Et évidemment, comme on est plus cher en bout de champ, mais ça va se retrouver encore plus au bout de la chaîne. D'accord ? On ne peut pas, aujourd'hui, en l'état, même avec 15% de surface agricole en bio, on ne peut pas nourrir toutes les cantines de France. C'est pas vrai.
Sur ce nouveau comportement des Français qui aiment le bio, qui veulent des ventes directes, Régis Minguy, je rappelle, vous travaillez désormais pour le réseau C'est qui le patron ? Vous êtes producteur de lait. Je signale que C'est qui le patron a lancé ses briques de lait, mais il y aura maintenant d'autres produits, hein, jus de pomme, steak haché, compote de pomme, pizza, beurre. Vous êtes satisfait de cette évolution du comportement des Français face à la nourriture, à l'agriculture ?
Bah, j'ai été sincèrement très très surpris hein, de la réaction des consommateurs français. Moi, je sais que pour nous, en ce qui concerne le lait, 40 millions de litres commercialisés en 18 mois par rapport à un objectif de 5 millions, on a été totalement bluffé. Alors, quand j'entends voilà 6,5 de bio, c'est pas suffisant. Moi, j'ai rencontré de nombreux consommateurs depuis que je suis passé chez C'est qui le patron, et je pense sincèrement que le consommateur français, il veut d'abord un produit sain et avec une vraie origine. Et donc là, je l'ai vraiment retrouvé par rapport à notre démarche C'est qui le patron, et je vous assure que lorsque l'on fait des animations au niveau des magasins dans lesquels notre lait est commercialisé, c'est la priorité, c'est réellement ce que nous demandent les consommateurs, et moi c'est pour ça que je les invite régulièrement à venir visiter l'exploitation, parce que c'est ça qu'ils attendent, un produit ils veulent savoir d'où ça vient et comment c'est fabriqué.
Bruno, bonsoir Bruno.
Oui, bonsoir.
Bruno, c'est à vous maintenant, vous êtes sur l'antenne, vous vous trouvez
en hiver.
Très bien, on vous écoute, on Bruno.
Voilà. Nos invités, tout d'abord, je vous remercie d'avoir bien voulu prendre mon appel et remercie France Inter de la qualité de ses émissions Téléphone Sonne. Voilà. Donc ma question, en fait, je me rends compte depuis de très nombreuses années que nous édictons des lois pour soi-disant protéger les producteurs, mais que rien ne bouge, rien ne change. Je crains que de toute façon, rien ne changera, je suis peut-être pessimiste, mais c'est uniquement l'éducation du consommateur qui va malgré tout, majoritairement, aller au moins cher, et le moins cher est toujours le plus cher. Que pensez-vous de ça ?
Arnaud Daguin.
Merci de répéter ce que j'ai dit il y a un petit moment. C'est très aimable à vous. Mais c'est vrai qu'on ne le dira jamais assez. Aujourd'hui, il faut identifier les valeurs et accepter d'en payer le prix quand elles sont là. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et c'est pas très compliqué, en fait. Simplement, l'appareil à mesurer la valeur, aujourd'hui, il n'intéresse personne parce qu'on va avoir de mauvaises surprises quand on va commencer à mesurer le total de nos produits, vous comprenez ?
Pascal Vinet ?
Oui, on est dans un système économique où le consommateur est ambigu. Il veut être citoyen, mais il a aussi des contraintes. Il faut ne jamais oublier que le revenu moyen d'un Français est de 1600 euros et que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas non plus les moyens de payer des produits très chers. Donc il faut avoir des produits sur une gamme variée. La France est capable de, notre agriculture est capable de faire une production variée et on a des personnes capables d'acheter des produits de haute valeur à des prix élevés. Puis on a des gens, de nos concitoyens qui ne sont pas capables. Et ça, il faut quand même le faire, enfin, il faut le dire et arrêter de penser que nous sommes dans un monde où finalement il serait facile d'acheter cher un certain nombre de produits. Donc il nous faut différents produits, différents marchés et il faut qu'on raisonne l'agriculture comme un secteur économique. Moi, ma conviction, c'est que si l'agriculture rencontre aujourd'hui des difficultés, c'est qu'on a oublié avant tout que c'était un acte économique.
Régis Minguy.
Oui, sincèrement, moi, je pense que les mentalités sont réellement en train de changer. J'en ai la réelle conviction et je me rends compte de jour en jour, mois après mois, que les gens sont capables de faire et sont prêts à faire un effort pour payer plus cher ce qu'ils achètent à condition qu'ils le sachent réellement.
Je résume quand même certains courriels qu'on a reçus. En gros, ça revient très, très souvent, le bio, nourriture pour bobos, et puis il y a une inégalité qui apparaît. Les bobos se payent du bio et les autres continuent à manger des produits de mauvaise qualité. Arnaud Daguin.
Ben, regardez, c'est si on rémunérait les services qui sont rendus par les producteurs qui travaillent bien, si on les rémunérait en amont, leurs produits ne seraient pas des produits chers. Quand on parle de valeur, on n'est pas obligé de parler immédiatement d'un prix cher. On parle de valeurs qui nous intéressent tous et qui conditionnent notre avenir sur cette planète. Si un jour on commence à comprendre que les paysans et les agriculteurs sont les gardiens du capital sol qui nous nourrit, je rappelle, 30 cm d'humus en moyenne sur 5 milliards d'hectares, c'est peu quand même pour nourrir 9 milliards d'êtres humains bientôt. Donc si on rémunérait les gens qui travaillent bien et qui produisent de la valeur pérenne avec cette production en amont, on n'aurait pas à se poser le problème du prix de leurs produits.
Pascal Vinet, COP de France, délégué général.
Ce qui a de la valeur a tout de même un prix. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et puis moi, je pense qu'on ne peut pas laisser dire que la nourriture française aujourd'hui est de mauvaise qualité. Enfin, c'est quand même un peu fort de café d'expliquer qu'aujourd'hui, depuis 50 ans, les Français se nourrissent avec de l'alimentation de mauvaise qualité. On a une sécurité sanitaire qui est élevée. On a des produits qui sont quand même...
Il y a eu quelques scandales.
Oui, enfin, on ne peut pas résumer l'alimentation française à quelques fraudes et quelques scandales. On a des produits de qualité, on a inventé les appellations d'origine.
Mais c'est scandaleux quand même.
On a une gastronomie reconnue dans le monde entier grâce à nos produits agricoles.
Il y a quand même une méfiance qui apparaît.
Oui, mais on est d'accord. Il y a un effort à faire et des travaux à faire. Mais enfin, ne laissons pas entendre aux auditeurs qu'aujourd'hui, s'ils ne mangent pas bio, ils mangent mal.
Manuel Ruffez ?
Non, ce que je voulais revenir sur juste un point, c'est ce qui est sûr, c'est qu'à l'issue des états généraux de l'alimentation, ce que tous les acteurs qui étaient présents ont fini par dire, c'est que la guerre des prix entre grandes surfaces, entre grands distributeurs, devait cesser et que cette guerre des prix avait fait plus de dégâts que tirait davantage pour les consommateurs.
La compète, Arnaud Daguin. C'est trop 2017.
Alors, Chantal est au standard, est avec nous. Bonsoir Chantal, merci d'écouter France Inter et de participer au Téléphone Sonne.
Oui, bonsoir. Eh bien, écoutez, moi, c'est un témoignage. Quand j'étais enfant, j'allais chercher le lait à la ferme avec ma grand-mère. Et j'ai souvenir de lait, de crème, etc. Enfin, c'est une histoire familiale, la nourriture. Et maintenant, j'achète, enfin, j'ai pas des grands moyens, mais j'achète de la qualité, des produits sains, des produits... j'adore aller au marché, discuter avec les gens, avec les producteurs et tout ça, les circuits courts. Et figurez-vous que j'ai trouvé un litre de lait de la région stéphanoise dont je suis native. Et en fait, je retrouve le même goût du lait frais. Il est cher, mais je me l'achète parce que c'est extraordinaire, quoi. Et je voulais féliciter tous les acteurs, les agriculteurs sont des gens formidables. Je les soutiens et je trouve que c'est indécent qu'ils ne puissent pas avoir un salaire à notre époque, un salaire décent pour vivre. Voilà. Et moi, c'est vrai qu'à ma petite échelle, eh bien, j'essaie de faire de l'éducation autour de moi aussi. Et je pense que l'éducation a un rôle fondamental chez les enfants. Pourquoi pas faire des cours sur l'alimentation, sur les produits, et je trouve qu'il faut absolument les soutenir parce que ce sont des gens formidables. Voilà.
Et donc, vous êtes prête, Chantal?
Comme je suis toute seule, j'ai pas beaucoup de besoins, mais je préfère acheter peu, mais de très bonne qualité.
Et voilà. Vous êtes prêt à faire un sacrifice sur votre pouvoir d'achat,
oui,
pour aider ces producteurs? Vous avez été applaudi ici.
C'est pas un sacrifice, c'est un investissement.
Oui.
Mais vraiment, enfin, aller rémunérer de la valeur en se faisant plaisir, c'est pas un sacrifice, enfin. Moi, je préfère ça que changer de téléphone obligé parce que le mien est obsolète tous les deux ans. C'est pas possible. Vous comprenez, ça a quand même une autre valeur.
Régis Magui.
Moi, je voudrais d'abord vous féliciter, madame, parce que je pense que vous avez tout compris. Mais sincèrement, oui, je pense que il y a moyen aujourd'hui de trouver tout ce qu'il vous faut à un prix raisonnable et vraiment de très bonne qualité. Et donc, enfin, encore une fois, bravo à vous, quoi.
Pascal Vinet.
Moi, je me rallie à ces félicitations parce que je pense que c'est un message clair vis-à-vis des auditeurs et de nos concitoyens. On a vraiment besoin d'avoir cette reconnaissance du monde agricole. On a besoin de mettre en valeur nos agriculteurs. On a besoin de leur redonner confiance. Nous, notre ambition, c'est qu'on retrouve cette confiance dans l'agriculture, dans l'alimentation. Elle a existé, elle doit continuer à exister. Et vraiment, moi, je peux le confirmer dans nos coopératives agricoles. Les agriculteurs, les 300 000 agriculteurs qui sont engagés dans les coopératives agricoles, ils n'ont qu'une volonté, c'est de satisfaire le consommateur, notamment français.
Le téléphone sonne au Salon de l'agriculture, c'est terminé. Merci à nos invités, Pascal Vinet, Régis Mingui, Arnaud Daguin, bien sûr, et Manuel Ruffez. Et merci à toutes les équipes techniques qui nous ont permis de réaliser cette émission-là en direct du Salon de l'agriculture qui ferme ses portes dimanche.